Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Egil et je suis votre hôte pour le podcast Lentou. Ce podcast, c'est un espace pour toi, pour moi, pour ton frère, ta sœur, ton cousin, n'importe qui, n'importe quel afrodescendant. On s'assoit avec un thé, des biscuits à manger et on parle confortablement installé. On se prend pas la tête. Et pendant ce temps-là, on va discuter, on va découvrir cette jeunesse, on va découvrir notre jeunesse. On va parler des sujets qui nous intéressent, parler de nos vies, se poser des questions, réfléchir ensemble. Alors, le temps que ça va durer, installe-toi, mets-toi à l'aise et puis c'est parti. Bonjour Eric.
Bonjour Régine.
Merci du coup de m'accompagner pour ce deuxième épisode du podcast Lentou.
Avec grand plaisir.
Alors d'abord, comment est-ce que tu vas?
Ça va, franchement. Ouais, je vais assez bien. Plusieurs anxiétés ici à gauche par rapport à certaines choses, par rapport au futur, là je suis en processus de recherche d'appartement, de déménagement, etc. Donc voilà, mais sinon, voilà, niveau boulot, ça va. Niveau ami, je suis béni. Voilà, donc j'ai là la seule chose qui me manque, c'est ouais, un petit espace à moi, un petit peu con, et voilà, je pense que j'aurai tout ce qu'il me faut là.
Ah bah
Je pense
j'espère
que
que tu
la
vas
famille va
vite.
bien. Donc non, franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre. Mentalement, j'ai l'impression que j'arrive. Ouais, j'arrive quand même à garder le cap et tout. Donc franchement, là, ça va. Je peux dire qu'on est à 100%, mais on est très 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 rarement, mais vraiment, je suis.
Ah bah écoute, super.
Voilà.
Et tu te trouveras du coup bientôt un logement.
Voilà.
Eh ben.
Je détruis les gens.
Ah, écoute, en tout cas, les gens, vous avez entendu,
Merci.
si vous avez un appartement pour un ami, manifestez-vous tout simplement
Merci.
sur le podcast. Alors, j'aime bien commencer par une petite découverte un peu des intervenants. Donc, j'ai prévu quelques petites questions. Donc, ce
Ok,
segment, il s'appelle
envoie.
Aquaba. Donc, bienvenue dans une langue africaine. Alors, première chose que j'aimerais te demander, c'est d'où est-ce que tu es parti dans ta vie? C'est-à-dire ton lieu de naissance, à quelle époque, le peuple d'origine, ta famille, ton milieu socio-économique.
Je suis né au Rwanda, hein, en 1992, hein, 92 pour les Français, septembre, Balance. Je suis né à l'époque dans un milieu socio-économique qui était confortable. Mais voilà, avec ce qui, tout ce qui a tout ce qui a explosé en avril 94. Du coup, voilà, on s'est retrouvé déplacé dans plusieurs endroits. On est passé par les camps au Congo, puis on a fini au Kenya, à Nairobi. Là, du coup, on était dans une situation socio-économique beaucoup, genre vraiment très, 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 très bien. Mais voilà, on a eu la chance d'être. J'étais avec mes parents, avec mon frère, ma soeur qui est née là-bas aussi, et ma grande soeur qui nous a rejoints aussi. Genre, à sa fin du mois. Puis voilà, de là, la réalité de la vie à Nairobi étant ce qu'elle était. On a tout fait pour venir en Belgique. Et donc, ma famille, moi je suis arrivé en Belgique en fin juillet 99. En Belgique, ma mère était déjà là avant, depuis une petite année avec ma petite soeur. Moi je suis avec mon frère et mon père par moi familial. Et voilà, depuis voilà, milieu socio-économique très modeste, mais voilà, nos parents ont toujours tout fait pour qu'on ait ce dont on avait besoin. Ils avaient des amis que mon père s'était fait parce que mon père a étudié, a reçu une opportunité quand il était jeune de venir étudier en Belgique brièvement avant de retourner au Rwanda faire commencer sa vie après les études. Donc voilà, grâce aussi à des contacts qui s'étaient faits ici, grâce à des contacts diasporiques qui étaient déjà ici avant nous, etc. On avait du soutien, donc voilà, plus du travail acharné de nos parents. Voilà, on a réussi à se construire une petite vie. Et voilà, je dis toujours, ouais, maintenant ça va, j'ai fait les études, j'ai un job qui me plaît. Voilà, je vais chercher pour vivre tout seul. On n'est pas dans la richesse, mais on n'est pas dans la haine avec le moment non plus. Et voilà, il fut une époque où justement, genre, en tant que transfu, de ta sortie de la vie, je me dis, bon, Eric, tu envoies quand même l'argent à travers tes parents, parfois au pays, ou même pour la famille qui est ailleurs au Cameroun, par exemple. Tu sais très bien que voilà, on est des générations où nos parents, quand ils ont la chance d'être propriétaires, ils finissent de payer au moment où ils finissent même de travailler.
Tout à fait.
Donc ils ont pas commencé à travailler ici, donc leurs pensions sont pas énormes. Donc plus tard, on va devoir aider les parents, en plus de reprendre toute la charge que eux prennent encore à leur sur leur dos par rapport au fait d'aider au pays. Mm-hmm. Donc c'est pas comme si on était ce genre de transfuge de classe où en fait tout l'argent qu'on est en train d'accumuler avec le job, etc., va juste à nous construire un patrimoine pour le futur. On a encore cet attachement au continent qui pour moi n'est pas une chaîne, en fait, parce que beaucoup de gens ont tendance à voir ça en mode ouais, c'est une chaîne, ça nous empêche d'avancer assez vite. Moi je suis quelqu'un très très porté sur je me vais bien que s'il y a beaucoup de gens autour de moi qui vont bien aussi, et je sais très bien que par exemple aussi l'accès à certaines choses, à certaines richesses, à certaines infrastructures ici, on y a accès. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas accès là-bas. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est au moins nous s'assurer que notre village, à la maison, nos familles vont bien. Et voilà, et puis, à tout le monde, je t'éduque un peu, tu sais très bien que c'est comme ça que c'est le seul moyen de continuer à être solidaire, parce que c'est voilà, il n'y a pas d'autre. Donc voilà, j'ai arrêté de me définir comme transfuge de classe parce que je me suis rendu compte que en fait non, ça va pas aller. Je vais pas être comme certains blancs avec qui j'étais à l'école dans une ou deux générations, et en soi c'est pas un problème parce que je n'aspire pas non plus à la richesse capitaliste, etc. Donc voilà, donc moi, je dis juste que voilà, avec tout ce parcours compris des études, je sais pas si on va en parler maintenant.
On va parler après, on aura le temps d'en parler.
Voilà, je suis arrivé dans une situation où je peux dire que voilà, je suis assez content de la vie que j'ai maintenant, je suis curieux de voir ce qu'elle va devenir en plus. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas forcément par rapport à là où je suis né et ce que j'ai traversé, c'est pas forcément là où toute personne imaginerait que j'aurais fini, mais je suis content d'être ici.
Ah bah écoute, c'est super. Et alors, en vrai, je me demande si quand on regarde rétrospectivement nos vies, il y a beaucoup de gens qui se disent « je suis là où je pensais que je serais ». Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment surpris en grandissant et de dire « je suis arrivé là ».
Je te jure. Non, mais même moi, en fait, c'est chaud parce que même moi, quand je suis sorti des études, je ne suis pas là où j'imaginais que je serais. Même quand j'ai commencé mes premiers jobs, je ne suis pas là où je m'imaginais que je serais, parce que je ne travaille pas dans le même secteur, je ne travaille pas avec le même genre de gens, je ne fais pas du tout la même chose. C'est toujours sympa de se dire waouh, ok, je suis pas là où j'imagine que je serais, mais est-ce que je suis content d'être là où je suis?
Exactement. Et ça, c'est la question. Exactement, ça c'est le plus important.
Absolument.
Et combien de langues est-ce que tu parles?
Alors, je parle le français, comme vous l'entendez, je parle l'anglais aussi très couramment, le néerlandais que j'ai appris, parce que c'est pas leur histoire de livre de vocabulaire là, de 1000 mots là que tu apprends.
Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné.
Ça au bout de 2 jours. Donc je me suis fait violence pendant mes études pour aller faire une partie de mon master, puis après mon master complémentaire en néerlandais à la KULE. Donc c'est là que j'ai appris le néerlandais, mais c'est vrai que mon néerlandais parfois reste un peu bancal parce que c'est pas une langue que j'ai. Ça s'entend que c'est une langue que j'ai appris plus tard. Mais voilà, je fonctionne tous les jours au travail en néerlandais et voilà, aussi, donc vraiment ça fait plaisir. Je parle le kinyarwanda, mais un kinyarwanda très bancal aussi, dans le sens en fait, voilà, mes parents toujours parlent kinyarwanda à la maison et on a toujours pu leur répondre. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui suis très attaché à mes cultures, à ma culture rwandaise, et qui donc a toujours voulu m'assurer de pouvoir toujours parler la langue et communiquer avec les gens. Mais il n'y a pas à dire, le fait d'avoir faire la place dans ma tête pour le néerlandais et ce genre de choses là le fait que de ne parler quasi qu'avec mes parents ou dans certains contextes de jeunes, mais pas beaucoup, on a fini par tout parler français, anglais et néerlandais, alors qu'on le sent qu'on peut tous parler néerlandais. On fait que mon kinyarwanda c'est affaibli. Et moi, je suis votre exemple. Moi, je vais aller aussi étudier, mais on va faire.
Mais viens. En plus, on vous attend. En plus, ils ont mis en place, bon, Ouais. Il faudra me payer pour ce placement.
Je te dis, même moi, là,
faudra me payer.
J'ai deux secondes et puis j'étais à, tu sais quoi, non, c'est cadeau, on donne, c'est pas possible, c'est pas grave.
Mais ouais, non, j'ai vu en plus qu'ils ont vraiment ajouté des nouvelles choses. Mmh. Vraiment, je pense que tu vas aimer.
Donc voilà.
Ouais, je pense que ça correspond plus à ta personnalité, ce qu'ils ont mis en place aujourd'hui. Ouais. Que avant.
C'est ça, parce qu'en plus, tu vois, moi, je dis aux gens, est-ce que les gens disent, ouais, mais toi, tu dois pas apprendre de zéro? Je dis, mais quand même, de manière style, parce qu'en soi, écrire et lire, c'est très, très compliqué pour moi, en client lambda, et, je connais, en fait, la langue d'usage, mais je ne connais pas les subtilités, donc, en fait, si on commence à zéro, tant mieux, même si parfois, j'ai l'impression de me fâcher, mais, donc voilà, c'est un peu le but. J'ai des bases, en portugais, de par mon Erasmus, mais, j'utilise ça encore, zéro. Et, intéressant, je parlais Swahili jusqu'à ce que j'ai 7 ans du Kenya, vraiment Swahili tous les jours couramment dans les rues de Nairobi, etc. Mais voilà, quand je suis arrivé ici, qu'il a fallu intégrer toutes les autres langues, j'ai fini par l'oublier. Donc voilà, linguistiquement, mes objectifs sont de toujours parler les langues que je parle ici, les trois langues européennes là, et de parfaire, de raviver ou le Kinyarwanda et le Swahili, et je pense qu'à approfondir le portugais une fois que le Kinyarwanda et le Swahili sont là. J'adore apprendre les langues, franchement.
Ben ça s'entend, en tout cas ça se ressent, et ce que tu sais par rapport aux langues qu'on connaît quand on est petit, et ouais. Puis la vie fait qu'en fait on les utilise pas, on ouais. a 20 autres langues, comment je me reconnais dedans ouais. Parce que quand je suis arrivé ici, je parlais Kinyarwanda parfaitement.
T'es arrivé à quel âge, toi?
À 5 ans.
Ouais, non, c'est vrai.
Toi, t'es arrivé en 99, moi, je suis arrivé fin d'année 2000.
Waouh.
Wow, wow. Un an d'écart, je suis arrivé, je parlais que Kinyarwanda. Dans la rue, dans le bus. Ah, une petite parenthèse.
Ouais.
Ma tante me disait que moi, j'ai toujours eu une fascination pour les bus.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, j'ai grandi à une époque où avant, donc à côté du chauffeur, mm-hmm. t'avais une barre en métal qui partait de la cabine du chauffeur jusqu'à la porte,
ouais.
et tu pouvais te mettre devant et tenir la barre.
Ouais.
Et donc quand il conduisait, moi j'étais là à la barre, comme si je conduisais moi aussi.
C'est pas celle qui la porte qui ouvre là, donc chaque fois en plus tu essaies de bouger. Là.
Si, mais bah, t'inquiète, j'avais l'habitude, c'était mon gars. Et en fait ce qu'il dit c'est que bah parfois, en fait moi je communiquais avec le chauffeur,
ouais.
genre je connaissais le trajet du bus parce que ouais. c'est le bus que je prenais tout le temps, j'ai on va aller à droite, mais je disais en Kinyarwanda. Du coup le gars il voyait pas. Ce petit, il me parle depuis là, mais je comprends pas ce qu'il me dit. Ça fait 20 minutes qu'il me parle, je sais pas ce qu'il me dit. Et moi, je suis là, il vaut morceau, il vaut dur, ça, attends, on recule. Non, enfin. Donc voilà. Et même, ma prof maternelle. Troisième maternelle, quand je suis arrivé à l'école, elle a pleuré le premier jour.
Ouais.
Je sais même pas dire bonjour. Oh. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant? Il doit aller en primaire l'année prochaine.
Ouais.
Il sait même pas dire bonjour.
Mmh.
Voilà. Mais bon.
On s'y fait.
En un an, je vais rattraper tout le monde.
Je te dis.
En un an, je vais rattraper tout le monde. Mais le Kinyarwanda, du coup, il a un peu souffert.
Ouais, c'est fait.
On parlait des langues que tu parles. J'aimerais te poser une autre question. Mm-hmm. Toujours en Europe. Pour que les gens te connaissent un peu différemment, en quelle langue est-ce que tu rêves?
Chaud. Alors, je rêve beaucoup en anglais et en français. Mais parfois, je me rends compte que maintenant, depuis que je travaille au système flamand, mes rêves, parfois, sont en néerlandais. Alors que je sens que mon néerlandais est bancal dans ma tête. Mais, parce que c'est la langue que je parle avec les gens. Donc, voilà. Mais par contre, je ne rêve qu'en langue coloniale. Mais, c'est vrai, ça, c'est en français ou en anglais en fonction de ma langue, c'est vraiment en fonction des sujets, des rêves.
Ouais, d'accord, ok.
Et, ouais. Mais,
Le néerlandais, par exemple, ce serait quoi les sujets? Ok.
Toujours par rapport au travail.
Et la souffrance.
Je te dis.
Même dans ses rêves de travail de poursuivre.
Non, mais c'est clair. Mais de toute façon, moi, j'ai l'impression de faire un travail où je dois vraiment, c'est mon défi pour le futur, c'est quand est-ce que je peux arrêter de travailler dans ma tête. Parce que je peux ne pas être assis à mon truc, etc. Mais j'entends une chanson, j'aimerais bien que, non, je rencontre quelqu'un, ah oui, mais elle a une note. Et dans ma tête, je fais, ouais, mais si je remplace ce jour-là, cet artiste, même pour m'endormir, c'est dur. Donc vraiment, le travail m'accompagne partout. Et le jour où j'ai commencé justement à rêver de travail parfois en avant, j'étais là, et là c'est grave.
Là c'est grave, là
c'est très très grave, il y a plus de...
Réunion d'urgence, dans ma tête, réunion d'urgence.
Ça, il faut... Ah mais on va y arriver aussi. On va travailler sur beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'en fait je ne dois pas tout... J'ai appris que je ne dois pas tout régler maintenant, mais c'est clair et net que la frontière entre mon travail et ma vie, c'est aussi quelque chose auquel je dois travailler.
En fait, je posais la question, parce que j'avais lu un article scientifique qui disait en fait que les langues dans lesquelles on rêve...
Ouais.
sont les langues que l'on maîtrise le mieux.
Ouais.
Et donc, forcément, c'est les cultures ouais. que l'on connaît le mieux qui nous définissent. Tu vois, il disait justement que, les bilingues, ouais. ce qu'ils vont expérimenter, c'est que quand ils vont apprendre une autre langue, ouais.
Imagine, tu parles français et tu apprends l'anglais. Au fur et à mesure que tu vas maîtriser cette langue-là, et que tu as vraiment ta langue d'usage, ouais. Ben dans tes rêves aussi, il y a un shift qui va s'opérer. Et tu sais que tu maîtrises une langue quand tu rêves dans cette langue-là. Tu sais, tu commences à te l'approprier quand tu rêves dans cette langue-là, toi. Mm-hmm. Et par exemple, c'est ce que tu disais par rapport au néerlandais, tu l'utilises dans ton travail au quotidien. Ouais. Donc en fait, au quotidien, tu es en train de l'intégrer au fur et à mesure, et c'est pour ça que dans tes rêves, ben, ça se retranscrit aussi. Maintenant, le jour où tu sauras que le néerlandais est vraiment bien intégré, c'est quand tu vas rêver de vacances en néerlandais. Là, tu sauras que non, là, c'est pas ça.
Ah, surtout que en fait, les vraies vacances, quand il y aura personne qui me parle en flamand là-bas.
Ah, tu vois. Et là, tu te diras, voilà. Maintenant, je vais avoir ma carte. Alors, une autre question. Quel est ton plat préféré?
Et c'est compliqué. C'est compliqué. Mon plat préféré. Non, c'est vrai que moi, je peux manger chèvre braisée et banane plantain hein, avec du mytho ou des sables en accompagnement tous les jours.
Merci, un connaisseur. Merci, monsieur, un connaisseur.
Merci. Donc, ça pourrait être tous les jours, vraiment, je ne vais pas te mentir. Mais à côté, de par ce que je mange, vraiment, j'adore de tous les riz pseudo jollof, le tiep est mon préféré. Un tiep avec un poulet. Oui, je sais pas, tiep poisson, le tiep poulet. Allez me frapper ailleurs. Mais voilà, un dolé, et c'est un plat camerounais là.
Oh, et dolé, c'est bon.
Dolé
poisson là.
C'est bon.
Dolé poisson, bon. Ça frappe.
Dolé bœuf même, c'est bon. Ça avec le riz là, avec une sauce magique pour apprendre à lever le feu. Eh, Seigneur. C'est. Ouais, donc c'est un peu. Ouais, c'est les plats que je kiffe. Poulet déjà aussi, c'est bon. Et puis ils sont mais parce que pardon vous allez manger aussi rendez il n'y a pas de histoire de pommes là
c'est meilleur c'est moi, ça désolé, voilà, c'est meilleur c'est plus consistant
c'est ça ça bien la viande là merci parce que l'histoire de la pomme de terre à l'intérieur là. Désolé les sud asiatiques on vous a volé le concept mais on l'a remixé et je préfère notre version
mais là tu m'attaques moi les pommes de terre et les légumes c'est
mal. Très bon mais pourquoi c'est dans ce sens ça wesh.
Non, parce qu'il faut aussi pour des végétariens qu'on ait l'impression de manger des samoussas quand même, d'être respecté. T'imagines si on s'attend à samoussa et nous on n'a pas.
Ce ne sont pas mes ancêtres qui ont créé l'industrie de la viande qui est mauvaise écologiquement et qui pousse beaucoup de gens à X, Y, Z. Donc non, moi je vais continuer à manger la viande, juste faire manger ça de manière respectueuse, mais non.
Mais végétarien, nous sommes ensemble, moi je suis avec vous.
Ensemble, je mange beaucoup de choses végétariennes. Et par exemple. C'est quoi? Si on va vraiment retourner à la base de la base, mon plat préféré, c'est des haricots rouges bien cuits dans une bonne sauce avec la tomate, etc. Et le riz. Très simple. Voilà. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment le truc que je vais manger tous les jours. D'ailleurs, si on parle d'anecdotes par rapport à nos parents, genre, mes parents me disaient, quoi, on préparait les haricots et genre, tu restais près de la marmite pour attendre que ce soit prêt. Et une fois que t'es prêt, genre, tu venais en mode sneaky, tu croyais qu'on ne voyait pas, en mode caché, pour manger
avec une petite cuillère comme ça qui apparaît de nulle part, un petit bras.
Tellement j'aimais ça fort. Donc vraiment, si on doit retourner à la base, vraiment, qu'est-ce qui me satisfait tous les jours, c'est haricots rouges, bruns, là, c'est pareil, préparé avec une bonne sauce, avec de la tomate, des oignons, etc. Et du riz. Tu sais quoi, je peux tout ça tous les jours. Mais depuis, c'est ça.
Et le toki juste à côté.
Vraiment.
Et le toki là, c'est
vraiment. Vraiment. Non, franchement, j'adore la bouffe de chez nous. J'adore la bouffe des pays voisins. Et j'adore la bouffe de beaucoup de pays, de continents. Franchement, je mange ça très bien. Mais on vit dans la réalité où je mange beaucoup plus souvent des pâtes et du pesto ou des autres choses parce que. La vie que je mène là, quand je rentre, j'ai même plus la flemme de cuisiner où l'environnement n'est pas fait pour, etc. Et donc voilà, j'ai fini par manger beaucoup plus souvent ça qu'autre chose. Alors qu'à la base, je suis vraiment quelqu'un qui aime prendre le temps de cuisiner, d'apprendre à faire des choses.
Ça demande une organisation. Hein. Vraiment, ça demande. Moi-même, je suis en train de fixer un jour de préparation.
Ah, mid prep.
Ouais, je suis en train de faire ce que sinon. Ah, sinon, c'est le désordre.
C'est un signe d'amour envers soi-même aussi, en fait, de se faire à manger, de prendre le temps de se faire à manger, de s'assurer que tu manges bien, que tu nourris bien ton corps. Parce que c'est négliger ce qu'on mange, ce que je fais beaucoup trop souvent parfois. C'est là où c'est des moments où je vois qu'en fait ça va moins bien parce que la vie est trop facile, et tout, etc. Donc quand j'arrive à des périodes où je peux faire ça, on dit, ouf, signe que ça va bien.
Et manger assis. Moi, j'aime trop manger debout. J'en fasse là, je dis non, 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 il faut que je m'asseye. Il faut que je m'asseye debout. Ça sera une autre discussion. Alors, une journée parfaite pour toi, c'est, elle ressemble à quoi? Il n'y a pas de limite. Hein, en fait.
Je me lève sans réveil. Je laisse mon corps se réveiller seul. Je vais courir.
Ah, tu aimes courir?
J'adore ça. J'adore ça. J'ai négligé ça pendant un petit moment. J'ai eu aussi une blessure en fait au tout début du confinement avec un ligament qui s'est déchiré. Et voilà, j'ai fait pas mal de réveil. J'ai même pas fini ça. Vraiment, on verra si tu écoutes. Je suis désolé, je ne suis pas assez assidu dans ma rééducation. Je fais, on verra du centre qu'il y a plus là. Qui m'aide vraiment au centre, vu qu'on drop.
Mais vas-y, franchement, on fait la promo. Hein.
C'est un centre de, voilà, de rééducation et de bien-être et tout physique tenu par deux femmes noires, Vera et Sona, et les gens qu'elles invitent à faire partie de leur aventure. Il y a de tout. Il y a des cours, même des cours de yoga donnés par Adela. Vraiment super, super. Et c'est là que j'ai commencé ma rééducation, c'est deux potes à la base. Et mais voilà, du coup, de base, je suis quelqu'un qui adorait courir. J'allais payer de l'argent pour courir 20 km de Bruxelles, là, ou bien le semi.
Allez, c'est vrai? Tu l'as fait?
Ouais, j'ai fait plusieurs semis, même.
Et là, en 2024, tu comptes le faire?
En fait, non. Depuis que j'ai commencé à travailler pour un festival d'art qui s'appelle Gunsen Festival des Arts, qui se fait tout le mois de mai, et que je suis en charge du programme discursif et des fêtes, ça fait que les samedis, je vais dormir à 6 h du matin, le dimanche, en fait. Pendant tout le mois de mai, donc ça, je peux plus. Et 20 km de Bruxelles. Et le semi-marathon, je le faisais, j'aimerais bien le faire, mais bon, je vais voir qui sont les sponsors aussi. Parce que si je vois que c'est sponsorisé par, je sais pas, Nike, AXA, Carrefour, donc tous les gens qui sont en train de dropper les bombes partout, bah, je vais peut-être pas faire parce que je me dis, payer alors que je peux me faire le défi avec des potes et se dire, ouais, vas-y, on s'entraîne et puis on ira faire 20 km autour de Bruxelles nous-mêmes, tu vois. Pas besoin de donner l'argent là-dedans, mais c'est vraiment un truc que j'adorais. Je faisais ça souvent. Je faisais, à l'époque, je faisais genre, l'enchaînement 10 km de ULB, 15 km de WLU, puis 20 km de Bruxelles. Donc vraiment, c'était
sportif.
Je faisais ça avec ma cousine et tout. Ouais, non, mais vraiment, mais par contre, cette blessure m'a vraiment beaucoup de trucs. Puis après, je sais pas, c'est pas un long épisode de dépressif. Où franchement je ne prenais pas soin de mon corps ni rien, etc. Puis après j'ai commencé dès que la pandémie ne s'est pas terminée, hein, faut continuer quand même à faire attention, elle est clairement pas terminée, mais dès que le monde entre guillemets a rouvert, j'étais dans un train de vie tellement accéléré que j'avais plus le temps de faire ça. C'était soit sur entre le sommeil, me lever et puis aller courir, etc. Donc voilà pourquoi ma journée commençait par, si elle peut être longue, stretch, se réveiller naturellement, aller courir, puis le matin prendre le temps de, je sais pas, soit de lire ou de regarder des essais YouTube, parce que j'aime, ma journée parfaite, j'apprends quand même des trucs. J'adore apprendre des trucs, j'adore déconstruire des trucs. Franchement, je passais toute une soirée à regarder des trucs sur le colorisme, le capitalisme noir, et genre, vraiment, genre, c'est mon kiff d'apprendre. Donc, je fais ça, puis manger, mais bien me faire à manger du coup. Là, par contre, du coup, vu que c'est la petite journée, je commence chez moi, me faire à manger.
Tu mangerais quoi?
Si je me fais à manger moi-même, je vais pas te mentir, ça sent moins un des plats, soit un plat très très facile, genre, wifi, bonhomme, chez les gens vraiment, rillard, etc., ou un truc à l'européenne très facile à faire.
Ok, bah
oui. Ou alors, je me fais vraiment un bon brunch, parce que je me rends compte, j'ai pas encore mangé dans cette journée-là. Je me fais un bon brunch, puis l'après-midi, je traîne avec quelqu'un. Je traîne, on fait quelque chose. On peut aller vers une expo, on peut aller, je sais pas, ouais, faire des bails, mais je traîne avec quelqu'un. Parce que je suis bien content d'avoir passé une bonne partie de ma journée tout seul avant. Parce que j'ai besoin de cette personne. J'ai besoin de cette personne. Et ouais, le soir, aller manger, mais du coup, un resto, là, on va aller au 140, on va aller manger un bon truc, un des plats là que j'ai dit. Et puis après, aller à un concert, ouais, aller à un concert que je n'ai pas organisé.
Ça change, hein. Ça change.
Aller à un concert, un spectacle de danse, mais genre, danse traditionnelle, pas danse contemporaine, no shade, mais, non.
Juste une question. Ouais. Est-ce que toi, t'arrives à résister à tes instincts, ouais, quand tu vas à un événement que tu n'as pas organisé? Je vais prendre un exemple. Moi, j'organisais beaucoup d'événements, ouais, à Louvain-la-Neuve dans le monde étudiant. Mm-hmm. Et j'ai le plus grand des mal à arriver à un événement, ouais, et à ne pas proposer mon aide, ou à ne pas penser ah, il faudrait faire ça. Ah, ils ont oublié ça. Ah, ils sont en retard. J'ai du mal à déconnecter cette partie organisatrice backstage. Ouais. Quand je suis à un événement et d'en profiter vraiment comme un spectateur.
Et tu sais quoi, j'ai aussi du mal à ça. Mais tu sais quoi aussi, genre ce truc de genre commencer directement à juger. Parce que juger, c'est un mot que les gens, en fait, on peut dire évaluer. Parce que juger, c'est un mot que les gens ont mis une mauvaise connotation dessus.
En fait, moi-même, je m'inquiète. C'est-à-dire voilà. je les vois bouger et je sais ce que ça signifie. Il y a quelqu'un qui a jamais fait d'événementiel, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Mais moi, je vois des signes, j'ai déjà été là.
Ouais.
Là, ils sont en train de parler comme ça. Je sais, je vois, ils pointent du regard là. Ah, ça veut dire qu'il y a ça là-bas, ça c'est la lumière. Ouais. Ça, c'est la personne qui est en retard. Ça, c'est en fait, je le vois et limite, parce qu'en général, je vois des événements que j'aime bien ou que j'apprécie ou dont j'apprécie les organisateurs. Ouais. J'ai tellement d'empathie. C'est que clair. J'ai envie d'aider, en fait, je commence à stresser pour eux, je me dis,
voilà.
Est-ce que ça se résolve, est-ce que ça va se résoudre, tu vois.
Puis après, je me fais des opinions dans ma tête, quoi, etc. Et mon problème, c'est en fait, parfois, c'est, en fait, ça se cherche quelque chose qui, dans ma bouche, dans ma tête, ne devrait pas sortir par ma bouche. Mais du coup, je vais me faire des opinions, je dis, mais non, ça devrait être là, non, etc. Et c'est vrai que j'ai du mal. Parce que du coup, ça passe très vite pour quelqu'un qui est là pour juger, justement, de manière négative, alors que, moi, c'est en mode genre, ah, mais non, j'aurais pu aider, si j'avais su que j'avais besoin de ça, j'aurais pu faire ça, etc.
Exactement.
Et puis, ah, mais non. Et je pars. Parce que moi, mon truc, c'est vraiment, genre, j'ai toujours dit aux gens, je veux tellement que la scène de l'événementiel afro-centré se développe à Bruxelles que tous les week-ends, on ait plusieurs options de choses à faire. Et que ce soit qualitatif, et que ce soit vraiment afro-centré, non seulement dans les thèmes, mais dans les personne qu'on met au centre, le public qu'on vise surtout et qu'on met le plus à l'aise et tout, etc. Que du coup, voilà, c'est tout, ça vient surtout de là en disant genre, waouh, parfois c'est du potentiel qui, mais du coup, voilà, maintenant, je m'entraîne à aller juste à un truc qui fait, ce qui est pas parfait, ce qui est pas, parce que moi, j'ai une en vierge, bon, je crois beaucoup en l'astrologie, mais du coup, quand je suis quelque part dans une zone de confort, une zone communautaire, j'ai tendance aussi à vouloir que tout soit parfait. Voilà, il faut juste que je détruise ça aussi. Parce que non seulement je pourrais juste kiffer des trucs, que ce soit parfait ou pas, que ce soit pas comme ça que j'aurais fait moi ou pas, tant que par exemple si je vois un truc, je me fais, ah ok, bah, bon à savoir pour mon prochain événement, m'assurer que ça. Et vraiment juste kiffer. Et je dois vraiment apprendre à le faire parce que je me rends compte que ça vient pas que d'un esprit de partie positive de moi-même, en fait. C'est une partie qui s'accroche trop au travail et une partie aussi qui veut trop changer les choses, même quand c'est pas de mon ressort et que c'était pas à moi et que mon opinion ne compte pas, etc., que je peux juste devenir qui fait plus.
Surtout quand t'as un poste de responsabilité dans ton travail.
Voilà.
Quand t'as l'habitude de donner des consignes.
Ouais, ou des conseils.
Surtout. Et d'organiser.
Les gens me viennent beaucoup à moi pour des conseils, en fait. Quand j'ai l'habitude aussi, je devrais juste me limiter, en fait, limiter aux conseils et aux opinions que les gens te demandent.
Exactement. Ça, c'est hyper compliqué.
Et viens et kiffe. Et commence pas à chercher. Viens et kiffe. Et donc, voilà, c'est ça le truc. Mais du coup, voilà. Dans ma journée idéale, j'irai à un concert ou un spectacle de danse ou au ciné. En fait, ouais, c'est bien d'aller voir des films. Et, j'aimerais boire des verres.
Ça.
Okay. Ah, moi j'aime danser. Okay.
Je vois ça.
Et repeat le lendemain. On se réveille peut-être un peu plus tard. Mais voilà. Et ma journée là, donc c'est un samedi. Parce que il faut que je puisse récupérer de l'axar le lendemain. Et il faut que j'ai encore l'énergie. Si je passe un truc vendredi, sort de courir le matin et tout, etc. Donc voilà. Donc vraiment, les bons samedis là, ramener ça. Après, il faut des week-ends de 3 jours. Parce que je ne comprends pas que d'avoir un seul samedi non, pour un week-end. Donc ouais. Franchement, c'est un peu ça. Un truc, mais ouais, voir des gens, mais avoir, et rentrer, mais par contre chez moi, tout seul. Et avoir cette partie de ma vie où j'ai été tout seul le matin. Parce que je suis quelqu'un qui, oui, de nature, entre guillemets, sociale et extravertie, mais qui fait un effort pour l'être. Et j'aimerais bien, en fait, ne devoir faire que ça, que quand, voilà, je décide de le faire, je suis dehors, etc. Mais, pouvoir aussi avoir mes moments tout seul, quoi. Okay. C'est bizarre parce que ma journée idéale s'était faite à Bruxelles. Je sais pas pourquoi. J'aurais dû dire que j'étais en vacances, mais. Ou ailleurs.
C'est ta habitude, hein.
Ouais.
T'es un vrai Bruxellois?
Alors, je suis ici que depuis, c'est 5 ans, quoi. 6, c'était
pas. Oui, je fais tellement de trucs à Bruxelles qu'au final, je pense que, en tout cas, sur Bruxelles, tu es la personne que je connais, qui connaît le mieux la scène musicale, artistique de manière générale, la scène en termes d'organisation, tout le milieu associatif bruxellois, tu le connais, et qui est connu aussi de tout ce milieu-là. en si peu de temps.
Voilà. Mais c'est parce que je, vraiment, comme je dis, vraiment, je et les gens se posent toujours des questions, disant, regarde tes stories, on voit ce que tu partages et tout. Et on se demande quand est-ce que tu dors et tout, mais c'est pas ce que je me dis, mais en fait, soit être combien, j'ai déjà fait des événements, il n'y a pas beaucoup de gens et tout. Et je me dis chaque fois, si je peux faire un effort pour être là, je vais être là. Donc, je vais beaucoup à tout. Et ça permet de rencontrer, ça permet de faire des liens et tout, etc. Et voilà. Mais du coup, par contre, tu t'exposes aussi, en fait, du coup. Parce que tu t'exposes aussi à la critique, que même moi, j'aimais. Tu vois, comme je viens de dire il y a 5 minutes, donc en fait, pas pour dire, bon voilà, on s'est mis à la critique et tout, etc. Du coup, tu parles fort, généralement, vu que quand t'es là, t'es vu, mais parfois tu parles aussi. Donc ça te crée, ça te met dans une position où, en fait, tu seras connu, mais c'est pas toujours très facile. Mais je changerai pas ça pour un monde, parce que c'est dire que j'ai vraiment pris le temps d'aller voir ce que les gens font vraiment, et d'apprendre à les connaître. Donc, je kiffe, en fait.
Et c'est le principal, et c'est le plus important. Bon, on a fini à partir quoi bas. Je pense que les gens te connaissent assez bien. Ouais. Maintenant, on va passer à la palabre.
Okay.
La palabre. Alors, comme j'expliquais pour le podcast, moi, ce que j'ai envie de creuser, c'est le parcours de vie.
Okay.
Tu as déjà parlé un petit peu de ton parcours de vie, quand tu as parlé de ta famille, justement, de 92 jusqu'à l'arrivée en Belgique.
Mm-hmm.
Maintenant, j'aimerais peut-être... Je pense que ton histoire en soi, en tant qu'enfant, et quand je dis enfant, je parle enfant conscient, donc pour moi c'est à partir de 4, 5 ans.
Ouais.
Mais d'ailleurs, c'est quoi ton souvenir d'enfance le plus ancien? Comme ça, je peux fixer.
Je ne me rappelle pas du Rwanda, je ne me rappelle pas du Congo. On arrive au Kenya fin 94, en vers décembre, je crois. Je ne me rappelle pas qu'on est arrivé à Nairobi, mais je me rappelle de nos premières années à Nairobi. Donc vraiment, du coup, je crois que j'ai 3-4 ans. Premier endroit, on l'a vécu. Premier ou deuxième endroit, on l'a vécu. Et voilà, c'est avec... c'est moi en train de jouer dans une cour avec les gens qui sont du quartier. De mon frère, de mon oncle, de mon père, de ma mère, de ma sœur, de mes sœurs. Maintenant, ma petite sœur, elle est née en 1996. Donc, je me rappelle de elle, je me rappelle aussi de ma vie avant qu'elle soit là, en fait.
Mm-hmm.
Donc, même que j'avais pas vraiment compris ce que c'était d'attendre un bébé. Donc, moi, je me rappelle juste qu'un jour, ils sont partis à l'hôpital, il y a une amie, ma mère qui a dit, on doit partir, là, c'est l'heure, c'est le moment. Et je pars, et maintenant, il y a un mec, quelques jours après, il y a un mec qui a un bébé. Comment? Comment ça?
Vous êtes parti à deux, vous revenez à trois. C'est quoi?
Il n'y a pas être comme ça, en fait. Il n'y a pas faire des choses pareilles. Et donc, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Mes premiers souvenirs, c'est vraiment au Kenya, etc. L'école, les écoles que j'ai fréquentées. Parce que j'ai aussi changé plusieurs fois d'école quand j'étais là-bas. Ouais, donc c'est un peu ça mes premiers souvenirs, tu vois. Et comme je dis, c'est pas une enfance où j'avais l'impression que, j'avais changé avec mes parents, avec moi, que certains de mes cousins, donc mes frères et sœurs de ma mère, sont aussi arrivés, leurs enfants sont aussi arrivés au Kenya, j'avais non seulement le cas dans le quartier dans lequel je vivais, mais aussi par rapport aux enfants et tout. Donc, franchement, c'est moi, je le sens comme un parcours de vie, et qu'on arrive en Belgique, c'était différent.
Et tu étais quel genre d'enfant?
Quel genre d'enfant? Enfant qui parle beaucoup, comme moi. Là, toujours, ça n'a pas changé. Enfant qui parle beaucoup, enfant très curieux. Enfant qui fait beaucoup des bêtises, vraiment. Et beaucoup à Ghana, vraiment, c'était ma pratique tous les jours. Faire des bêtises, qui était aussi vif à l'école, qui adorait la musique, qui allait danser comme si j'avais envie de danser. Mais c'est que des qualités, quoi que non, se faire des bêtises, c'est aussi des galeries, donc ça va. Ouais, donc j'étais un enfant particulier, mais un enfant,
Et quels ont été les moments marquants de ton enfance?
Donc l'arrivée de ma sœur, quitter le Kenya. Quand ma mère et ma sœur sont parties pour la Belgique, je ne savais pas qu'elle partait pour de bon, et c'est vraiment plusieurs jours que j'ai vraiment compris qu'elle était partie. Et à ce moment-là, on ne savait pas si on allait se rendre un jour, en fait. Parce que même elles sont arrivées, elles ne savaient même pas si elles allaient faire, etc. Mais j'ai fait ça, Et là, j'étais là, ouf. Dans ma tête, on s'est préparé beaucoup. En fait, que mon frère, mon père, mon oncle, jusqu'à la fin. Là, genre, les rares fois, on s'appelait là. Ah, mais les émotions d'enfance qui montent là. Mais voilà, donc ça m'a marqué. La retrouver, my god, je crois que je l'ai pas lâché pendant. Parce que j'avais même pas encore 7 ans, là, j'avais pas 27 ans qu'on arrivait à Bruxelles. Donc ça, c'était un moment marquant. Devoir déménager peu après, une trêve en Belgique pour de Bruxelles à une campagne avec 333 habitants, là, tout le monde était blanc, les gens n'avaient jamais vu de noir, on était 4 dans une classe, genre.
Oh, j'étais où?
À Erim, dans la commune dans l'agglomération de Pec, pas loin de Tournai, dans le Hainaut.
Ok, là on voit parce que.
Voilà.
T'as dit Erim, t'as dit Pec, là.
Des endroits là, Anna.
Et les tournées, je dis, ok.
Et en fait, du coup, en fait, du fait d'avoir étudié un peu en Europe, donc il a aussi des amis qui sont devenus, parce qu'on avait déjà des parrains et marraines rwandais, du truc, mais aussi du coup, quand on est arrivé, on avait besoin de parrains marraines, parce que nos parrains marraines n'étaient pas venus avec nous.
Tout à fait.
Et pas de remplacement, mais qu'on aime beaucoup. Donc dès ma première communion, j'avais aussi un parrain, et en fait, lui, il vivait dans un village juste à côté. Et donc, c'est grâce à lui qu'on a pu emménager dans ce village avec lui, Donc, ça, c'est aussi un changement. De passer de rue Georges Moreau, là, à Anderlecht, Saint-Gilles, près de la gare du Midi, où il y avait beaucoup de personnes noires, avec une personne catégorisée comme arabe et tout, etc. Et à un moment, on a pu dire. Donc, c'était un gros changement.
Là, c'était quoi, 2001?
Non, 99. Vraiment, ça allait très vite. Ça allait assez vite. Le temps de m'habituer à Bruxelles, à l'école en français, etc. On a déménagé. En plus, c'était le jour de mon anniversaire qu'on a déménagé. J'étais là, Et j'ai eu une arrivée très traumatique dans cette maison parce qu'il y avait une cave, mais je savais pas. Et donc, moi, je commence, curieux comme je le dis, je commence à ouvrir les portes de toutes les pièces. Mais moi, j'ouvre, je sais pas encore énumérer, donc je mets un pas, et c'est pas je mets un pas, je roule jusque tout en bas de la cave, là, je me prends, etc. Je me lance, j'ai même eu des concussions, le sais-je. Et voilà, c'était vraiment en 5 minutes dans cette maison, je me suis déjà retrouvé tout en bas de la cave. C'est comme ça que j'ai découvert la cave et tout. J'étais là, ok, welcome. Welcome. Donc, ouais, non, sans ça, c'était donc tous ces changements très rapides de me rappeler mes premiers souvenirs à Nairobi. Les changements d'école, ma mère qui s'en va, ma mère qu'on retrouve ici, qu'on arrive à Bruxelles, qu'on change directement, emménage à la campagne. Et là, ça s'est plus ou moins stabilisé, j'ai vu plusieurs, les mêmes personnes, Puis je me rappelle, c'était cool quand mes cousins, sont comme ça, arrivés en Belgique aussi. Mais là, voilà, ma vie s'est un peu plus stabilisée, j'étais à Erim à l'école, primaire pendant 4 ans, puis après, la plupart des gens avec qui j'étais à l'école à Erim, petite école, on est quand même tous à la même, école secondaire au collège Tuquin, et c'était genre, je connaissais, mon parrain enseignait là-bas et tout, donc je me suis fait une petite routine où voilà, je passais mes vacances de Pâques et tout chez mes cousins. Donc c'était chouette. Et par contre, du coup, le changement après, j'étais là, waouh, c'est le projet de ma série supérieure. Mais voilà, c'était un peu ça, mes souvenirs marquants de la partie de mon enfance formative.
Ah, mais du coup, les premières années, elles ont été bien mouvementées parce que. Entre le voyage, ouais. C'est un pèlerinage, ouais. Entre les différents pays, ouais. De toute l'Afrique centrale, ouais. Et un peu de l'Est. Ouais. Du coup, la transformation, parce que d'un coup, tu passes d'enfant unique à grand frère.
Je veux dire, mon grand frère. J'ai obligé de passer de cadet de la famille petit manche.
Celui du milieu, l'enfant du milieu. Ouais. Et ça signifie quoi pour toi? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que forcément la dynamique familiale change?
Mais je suis vraiment mon grand frère a quand même été un grand frère dans parce qu'on est arrivé et tout, mes parents devaient ma mère devait travailler la nuit, mon père aussi, il n'était pas toujours à la maison, il était dans des espaces de tous les jobs là que tu vois quand tu viens d'arriver ici, c'est que beaucoup de gens quand viennent d'arriver ici en tant que créer plus marrant, aller cueillir des pommes, de ce que les écoles étaient le week-end pour faire de l'argent, puis retourner faire des études parce qu'on ne veut pas agréger tes diplômes et des choses comme ça. Mes parents voulaient faire ça, donc ils n'étaient pas très souvent là, mais ils s'assuraient qu'on avait à manger, etc. Et mon grand frère, du coup, à l'époque, était quand même, il y a que 2 ans plus que moi, mais du coup, il est quand même pas mal de responsabilité assez vite. Mais du coup, moi aussi, j'ai vite compris qu'en fait, on doit être très responsable pour nous-mêmes. Et ce truc parce qu'à l'époque du coup ma grande sœur n'était pas encore avec nous, elle est arrivée seulement après, donc je me suis vraiment très souvent, j'ai vite compris que avec une petite encore plus jeune que moi, qui est en plus petit, donc on apprenait de nos yeux, etc. J'ai vraiment dû m'habituer à être l'enfant du milieu, à être très indépendant et très suffisant pour moi-même, en fait. Vraiment, donc, ce cliché du gars qui sait beaucoup de trucs parce qu'il a dû apprendre par lui-même et tout ça, de l'enfant du milieu, où le plus grand et le plus petit s'entendent assez bien, et moi, je suis souvent un peu celui qui clash et tout, etc. Donc, vraiment, j'étais pur, ce pur cliché, tu vois. Mais donc, du coup, j'étais très indépendant, j'étais souvent dans mon propre monde, à cultiver mes intérêts et tout, etc., mais de manière très, très, très stratégique.
Tu lisais?
Hein?
T'aimais lire?
Quand j'étais petit, ouais. J'aimais lire, mais j'étais pas ce genre de personne qui, genre, lisait livre après livre après livre après livre. Je vais pas mentir. Je suis une créature d'habitude, comme on dit, donc j'ai lu beaucoup, souvent les mêmes choses. Je regardais souvent une série, même au jour d'aujourd'hui, en fait. Je crois que parfois j'ai besoin de me réfugier dans un truc que j'ai déjà vu et j'ai pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau parce que voilà, ma tête est déjà trop pleine. Mais j'aimais lire, mais par contre, je ne vais pas mentir, je suis un piètre lecteur. Genre, vraiment, j'achète des livres là. Célestina, vraiment, Célestina, je t'en disais hier, une pépite blues. J'achète des livres, j'achète des livres, mais est-ce que je les lis? Non, je suis une personne qui a une bibliothèque avec deux tiers de livres qu'il n'a pas lu.
Ah, on est ensemble, hein.
Voilà.
On est ensemble.
Donc, mais ouais, j'ai toujours été un fanat de pop culture. Comment dire ça, genre? Les dernières chansons, la page de Eric savait. Les dernières chansons qui étaient à la mode en Angleterre, de par mon contact avec mon cousin de où, parfois d'aller en Angleterre, de ce qui était aux États-Unis, de par, du coup, l'imperialisme américain qui ramenait ça chez nous. Et moi, j'avais, dès qu'on a eu Internet, j'allais encore plus chiner, ce qui était populaire ici, les séries, quel acteur joue dans quoi, donc vraiment tout ce qui est, après, très showbiz, mais divertissement, entertainment et tout, etc. Et l'impact que ça avait sur nos manières de vivre, des choses, de consommer et tout, etc. Et nous, j'ai toujours été fasciné par ça. Donc voilà, j'étais beaucoup dedans, en train de lire des magazines, etc. Donc, vraiment, c'était ça. J'étais ça comme enfant. Mais du coup, ouais, ça a fini par informer, en fait, qui je suis aujourd'hui. Pas directement, tu vois.
Bah, tout est lié. Hein.
Ouais.
Moi, je suis convaincu que tout est lié. C'est pour ça, justement, que quand j'ai des invités,
ouais,
j'aime bien repartir de l'enfance.
Ouais.
Parce que quand tu repars de l'enfance, moi j'ai le sentiment que l'enfance aussi un temps d'innocence et un temps que tu es dans une sorte de bulle. Ouais. C'est-à-dire que c'est toi, ton être, en dehors des influences extérieures. Bien sûr,
ouais,
les circonstances de la vie vont toujours t'influencer. C'est pas pour dire que personne n'est de nulle part. Personne n'est totalement détaché. Ouais. On est produit d'un environnement. Mais c'est le produit d'un environnement qui, somme toute, n'est pas le monde dans sa globalité.
Ouais.
Et donc, je trouve que parfois, en fait, tu sais, quand on parle de l'enfant intérieur, en tout cas, moi, je vous ramène toujours à... Enfin, moi, je prends cette expression-là au sens littéral. C'est de dire l'enfant que j'étais. C'est-à-dire que quand je n'ai pas de responsabilité, quand je n'ai pas payé de facture, je ne vais pas me soucier de comment je vais manger, comment je vais m'habiller. Quand mon seul problème, c'est que je demande et on me donne... Qui est-ce que je suis?
Ouais.
Et pour moi, ça informe beaucoup sur la nature de la personne.
Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Tu vois? Mm-hmm. Et qu'est-ce qui m'attire naturellement, genre, quand j'étais petit, à partir du moment où ça dit oui, mais il faut connaître tes leçons autant que tu connais les paroles des chansons. Okay, non. Mais vraiment, tu vois, comme tu m'as demandé tout à l'heure, ma journée idéale, c'était si quand j'étais un enfant et qu'on me laissait tout seul et que je pouvais faire ce que je voulais, etc., qu'est-ce que je voulais faire naturellement? Et parce que c'est quelque chose que je voulais et que j'aimais faire naturellement. Est-ce que ça informe ma vie aujourd'hui? Et c'est quelque chose, et du coup, ce que j'ai décidé de faire de ma vie, est-ce que c'est quelque chose qui satisfait, continue à satisfaire cet enfant ou pas? Et ça, c'est une question que je me pose quand même, c'est sûr.
Et tu donnerais quoi comme réponse? Ou le plus souvent, quelle est la réponse que tu te donnes?
Quand même, oui. Écoute, ma vie, c'est organiser des concerts, des soirées, des événements, apprendre des trucs, et voilà. Et même il y a 5 ans, ma vie, c'était de voyager, d'aller vendre des vêtements de haute qualité pour une marque de luxe et tout. Genre, à l'époque, j'étais, ouais, mais pour le petit qui s'amusait à dessiner des vêtements qu'on avait pris dans ses petits cahiers, bah, il kiffe.
Allez, t'étais un petit designer.
Ah, j'étais un petit designer fort.
Wow.
Ouais, et c'est là où tu vois aussi que voilà, en fait, les conditions socio-économiques, parce que si on était dans un monde où vraiment on voulait absolument que tu t'épanouisses, parce que, et non pas sortir justement d'une certaine précarité et tout, etc., je suis sûr que j'aurais poursuivi ça, j'adorais danser, chanter, tout, etc., j'aurais pu aller dans des espaces où on m'aurait appris à, ok, ta voix, tu fais que crier pour l'instant, mais si t'as envie de chanter, apprends à chanter comme ça, et si t'as un bon ton, t'as peut-être du potentiel, tu pourras faire de la musique. J'ai commencé le solfège, mais le prof m'a saoulé, j'étais pas assez lu, mais j'aurais pu faire de la musique, je dessinais, etc. J'aurais pu dire, bon voilà, ils auraient pu dire, oui, tu ne seras pas illustrateur d'une bande dessinée, tu ne dessines pas de manière super réaliste, mais si on t'apprend, tu peux faire des croquis, tu pourras finir par faire des vêtements, etc. Et aussi du coup les codes des normes de genre fait que j'aurais pu apprendre à coudre si je veux en fait plutôt que de me dire ah mais non en fait c'est la couture c'est j'aurais pu regarder ma mère et dire ah mais en fait est-ce que je peux m'apprendre à coudre et ce serait passé tu vois donc en fait c'est ça si la vie ne restreignait pas certaines choses justement si on vivait dans un monde post-capitaliste où le développement et la providence tout un chacun de chacune et ce qui est important, je crois que j'aurais fini encore plus créatif que je le suis maintenant. Maintenant, je supporte des créatifs, j'accompagne des personnes créatives et tout, etc. Mais ça se fait, c'est moi qui aurais été créé. Et voilà, pas de regret parce que je peux pas être fâché par rapport à un scénario qui aurait été fait dans un monde idéal. Je peux me dire, voilà, écoute, travaillons à créer ce monde idéal. Mais entre-temps, voilà, la vie est passée. Et le fait que je puisse quand même, que je me retrouve quand même quand j'étais grand, après avoir fait mes études et tout, etc., à quand même avoir pu explorer cette option de travailler dans la mode directement avec des personnes qui sont créatives et tout, etc., et pouvoir mettre ma touche. Puis après, travailler justement maintenant comme aujourd'hui dans la musique et dans la nightlife, etc., avec des gens qui sont musiciens, qui sont DJ, qui créent des expériences et pouvoir créer ces expériences-là pour le public, en fait. Non pas en tant que personne qui est la personne qui a organisé, qui a booké, etc. Je suis très content. Vraiment, je crois que cet enfant, de cette manière-là, il est quand même très, 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 très satisfait. C'est peut-être pas ce qui a été fait naturellement, mais on y arrive quand même arrivé au bout, quoi. Mm-hmm. Et je me dis que j'aurais pu, en fait, ne pas vouloir rendre cet enfant entièrement heureux et continuer sur... parce que je sais pas si on va parler longtemps. J'ai fait des études d'ingénieur de gestion, en fait. Donc, vraiment, j'étais parti en mode corporate, consultance et tout, etc., vouloir gagner plein de thunes et travailler 50 heures par semaine. Et vraiment, il n'y a rien de mal à ça. C'est vraiment tout sens que ça te passionne. Ou bien, si t'as pas besoin de faire un job qui te passionne, peut-être que tes passions sont à côté, il n'y a vraiment rien de mal à ça. Donc, vraiment, que personne ne prenne ça comme un jugement parce que les gens ont tendance à faire ça. Mais, moi, je n'aurais pas été heureux si je continuais ce truc-là. Je crois que j'aurais pété un câble de monstre. Seulement pété un câble dans un bel appartement, tout, mais j'aurais pété un câble dans l'autre. Mais du coup, le fait que, à un certain moment, dès que j'ai fait mes études, j'ai dit à mes parents, bah voilà, maintenant je vais aller faire des écoles d'été et des écoles du soir en management et communication, marketing de la mode et du luxe. Je vais me payer moi-même. Mais voilà, quoi qu'il arrive, j'ai les diplômes d'ingénieur de gestion et de finance et marketing, j'ai les derrière. Je peux reprimer sur mes pieds et je me mettre lancer le truc. Et une fois que dans la mode ça n'a pas fonctionné parce que bon, X raison, Z, X, Y, Z, que j'ai pu me dire, ok, je pense à faire des événements culturels à côté, et puis je me dis, oh, en fait, c'est ce que je fais depuis que je suis à l'UNIF. Et voilà, commencer dans des trucs très multidisciplinaires, puis après me concentrer dans la musique et maintenant me dire, bah ouais. Mes deux premiers amours, c'était la mode et la musique, et j'ai travaillé dans l'un, ça n'a pas fonctionné, je suis dans l'autre, et je kiffe, et je suis en train de monter les échelons, non pas en mode genre hiérarchie, bien les thunes, mais je suis responsable de la programmation d'une salle de concert tout seul, genre, c'est inouï, tu vois. Et voilà, donc voilà, le petit Eric, il est content.
Et c'est vrai, ça m'a étonné justement quand j'étais prof, tu as fait des études de gestion et que tu as travaillé dans des milieux très corporate. Ouais. Parce que j'ai pas cette image de toi.
Ah, pas du tout.
Moi, quand je t'ai rencontré, c'était Eric Cusuzo, Black History Month Belgium, événementiel, culturel. C'était les talks sur le colorisme dans l'industrie musicale. C'était des discussions sur l'esthétique, justement l'esthétique afrodescendante.
Ouais.
Notamment via l'article de Vice
que
j'avais lu et dans lequel tu étais une des personnes qui était citée pour être enfin, moi, c'est le milieu culturel où je t'ai connu et même militant.
Ouais.
En réalité, milieu militant.
Ouais.
Et donc, quand j'ai découvert que tu étais corporate, je me suis dit, mais attends, je ne comprends pas. Et en plus, maintenant que tu me dis qu'en tant qu'enfant, tu t'orientais plus vers tout ce qui était artistique, vers tout ce qui était créatif, je me pose la question. Quand s'est passé le shift, c'est-à-dire que quand s'est passé le shift entre l'enfant que tu étais qui avait ces aspirations-là et ces rêves-là, quand est-ce qu'il est passé en mode par corporate, en fait. Ce qu'il dit, bah, écoute, ça, ces rêves-là.
Ouais.
Après, j'ai quelques idées, parce que je me dis, c'est sont. Et j'aimerais l'entendre de ta bouche, mais quel a été le shift? Et quand s'est opéré le deuxième shift, où tu t'es dit, mais en fait, corporate, ok, je l'ai fait, parce qu'en plus, je suis désolé, mais je te disais tout à l'heure, hein, mais j'ai vu un peu ton profil LinkedIn. C'est pas rien. C'est comme des grandes, c'est comme des grandes sociétés. C'est, t'étais vraiment dans le monde de l'entreprise, mais pur et dur. Vraiment, t'étais intégré dedans. Toi, t'étais. Et là, je me dis, mais attendez. Et maintenant, j'ai un homme aujourd'hui qui me dit qu'il est anticapitaliste, qui est.
Non, c'est dingue.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quels ont été ces. Il y avait un film que je suivais la dernière fois là, qui s'appelle. J'ai oublié le nom du film, mais c'était avec Channing Tatum. Et il parlait des moments d'impact. Ces moments qui changent, qui montrent un ton. Quels ont été ces moments d'impact pour toi entre l'enfant que tu étais et l'adolescent que tu es devenu, peut-être entre l'adolescent et le jeune adulte que tu étais, et après le deuxième pas pour faire une totale reconversion en fait?
Ça a commencé assez vite, parce qu'en fait, donc moi là j'ai parlé de ce que je faisais quand j'étais dans le confort de ma chambre, à savoir écouter de la musique, enfin sur le cinéma, etc., dans le confort de ma chambre et tout, et une fois que j'avais fini mes devoirs, parce que voilà, c'était ça le truc, j'ai commencé à entendre Eric Numuhanga dès que j'avais 7 ans, que j'étais bon à l'école. Parce que quand je suis arrivé ici, je finissais mes maternelles et le début de mes primaires au Kenya, mais dès que je suis arrivé ici, alors que j'avais j'avais même pas encore 7 ans, on m'a mis directement en 3e primaire.
Ah oui, surdoué en plus.
Pas surdoué, faut arrêter. Non. Bon, dans certaines matières, à l'école, à qui on donne un truc, parce que j'étais pas bon au sport, j'étais pas bon en compétences pratiques, plein de trucs, je savais pas construire des trucs, etc. Donc voilà, c'était surcalé.
Eric, tu n'avais pas 7 ans. Ça veut dire que techniquement, pour l'époque, tu devais aller en première.
Ouais.
On t'a mis en 3e.
Ouais.
Donc t'as sauté 2 années.
Techniquement, oui.
C'est pas tout le monde qui saute 2 années.
Mais voilà, donc.
En primaire.
Donc voilà, en primaire. Et donc, du coup, c'était. Ah, ok, bon, c'est ça. Puis après, on vient d'une. Rendez, donc je suis pas là pour nous attaquer. J'aime nos communautés, mais voilà. On vient d'une communauté où on pousse en plus, encore plus à l'excellence à l'école, ou en tout cas, bien shiner, c'est bien vu pour ta famille, etc. Et surtout, comme entre guillemets, on est noir en Europe, c'est très la respectabilité, à savoir, faut être mieux, faut faire deux fois mieux, deux fois plus pour avoir la moitié du résultat, etc. Et donc, en plus, quand j'ai vu que j'étais bon à l'école et que je suis arrivé et que je pensais faire beaucoup mieux que tous les enfants blancs de l'école, mes parents se sont aussi dit, en fait, et que mon frère aussi, genre, qu'on était assez bon, ah, ça va être ce qui va être notre marque de les gens vont moins nous fâcher dans le village, ils vont être moins racistes et tout, etc. Parce que vous voyez, nos enfants arrivent et ils dégomment tout. Donc c'est, même si c'est pas quelque chose que mes parents me disaient, genre faut être, mais mon père, voilà, il venait, on a de la chance. Mon père, il faisait nos devoirs avec nous et tous les jours, on a de la chance parce que lui, du coup, il était à l'école, il voulait devenir prof, et finalement, devenu prof aussi de français, de latin, de grec, de religion et de morale.
Mon père, félicitations, papa, félicitations.
Mon père, c'est l'école. Et ça nous a aussi fait souffrir, parce que ça a aussi créé une relation assez conflictuelle, parce que vraiment, tu t'attends à la perfection, mais tu n'as pas beaucoup de grâce pour ton enfant, quand ton enfant n'arrive pas à faire certaines choses. Donc voilà, c'était vraiment pas le truc. C'est pour ça que j'ai fait, parce que on avait de la chance, on avait un parent qui faisait des devoirs avec nous, ce qui est quelque chose que les gens nous font de moins en moins, ou parfois n'ont pas toujours l'aptitude de pouvoir faire. Donc on avait cette chance, le temps et l'aptitude. Donc on avait cette chance, mais voilà, c'était pas toujours très, très, très facile, parce qu'il manquait parfois de grâce et de compréhension, et ça partait dans des trucs qui peuvent être traumatisants et tout.
C'est vrai que les enfants de profs, parce que j'étais dans des classes avec des enfants de profs, ils détestent être dans l'école de leur papa ou de leur maman.
Ah, mais moi j'étais pas, Dieu merci, j'étais pas dans l'école de mon père.
Mais eux ils détestaient ça, et en plus ils détestaient à la maison rentrer, parce que exactement ce que tu dis là, tu vois. Non seulement il y a le. Comment tu comprends pas ça? Tu es mon enfant!
C'est ça.
Comment, moi, mon enfant? Tu vois? Il y a ce côté social, mais il y a aussi ce côté où il est prof, c'est-à-dire toute la journée. Ouais. En fait, moi, parfois, j'ai l'impression quand ils parlaient, en fait, que leurs parents les traitaient comme leurs élèves.
Ah ouais?
Ils venaient journée avec des élèves. Ils transposaient ce qu'ils ont vécu à l'école, toutes les frustrations qu'ils ont là.
Ouais.
Ils se retrouvent à faire le devoir avec l'enfant, à l'accompagner, comme s'ils faisaient un accompagnement personnalisé.
Merci. Je crois qu'il laissait
toute cette pression, elle ressort, tu vois.
Voilà. J'ai l'impression qu'il laissait sa pédagogie à l'école, et sa grâce pour les élèves qui doivent prendre le projet, etc. à l'école. Ouais. Tu vois, les gens disent, que ça choque les enfants, les gens, de voir comment leurs parents se comportent avec leurs enfants à eux, donc avec leurs petits-enfants, comparé à comment ils se comportent avec toi. Mm-hmm. Tu es là, mais, ah. Et donc, moi, j'ai vu ça avec mon père et mes petits et mon neveu, l'enfant de mon, et mon neveu et ma nièce. Je suis là, ah, mais, donc vous êtes gentils comme ça. Où était cette gentillesse quand j'étais
avec eux?
Mais, du coup, moi, j'avais la version où j'étais là, mais, oh. Je suis allé une fois, genre, à Disneyland avec l'école de mon père et tout ça. Et je voyais comment les gens me parlaient, et j'étais, oh, monsieur, wow!
Vous ne le connaissez pas.
C'est ça! Et j'étais là, mais toute cette grâce et cette patience pour eux qui peuvent parfois mal répondre, mais toi tu le réponds avec de manière stricte, hein, parce que mon père est quand même quelqu'un de strict de nature, mais avec bienveillance et grâce, j'étais là, mais oh, tout ça c'est passé où à la maison? Ça passe où en fait? Mais je crois que du coup, en fait, c'est pour avoir cette grâce et bienveillance, t'as voilà. Mais du coup, à la maison, t'as plus de trucs là, et j'étais là, mais oh, mais non, moi je veux cette version, je veux cette version là en fait. Et c'est là parce que tout est lié dans la vie, parce que moi j'ai regardé cette discussion entre Nikki Giovanni et James Baldwin, où elle disait en fait que les femmes noires parfois ont marre dans les relations avec leurs hommes aussi, que elle disait à James Baldwin, si on est dans une relation, tu ne t'emportes jamais contre ton patron quand il dit de la merde, contre tes collègues, etc., parce que tu sais que ta vie, hein, ton job en dépend et tout, etc. Tu leur montres que le côté souriant de ta vie et tout, etc. Mais quand tu rentres, moi, à la maison, je m'accable parce que du coup, moi, je dois me prendre toutes les plaintes par rapport à ta journée et je vois ton côté le plus triste et tout, etc. Elle fait, ah, mais parfois, moi, j'aimerais avoir aussi ton... Mens-moi. Tu vois, comme tu mens, comme tu montres cette grâce et cette patience et tout, etc., à tes collègues, à ton patron, aux gens dans la rue, aux gens qui te servent et tout, etc. Ah, pourquoi est-ce que parce que moi je vis dans la sphère la plus intime de ta vie, j'ai droit aussi à tous les trucs les plus négatifs. Je serais prêt à les accueillir, les trucs négatifs, si ça venait aussi avec de la grâce et que je pouvais être un vaisseau pour les recevoir et qu'on puisse se soigner ensemble. Mais généralement c'est pas toujours le cas, même pour les parents et tout, etc. Et je dis mais ouais, mais en fait oui, les gens dans la sphère intime parfois se prennent les trucs différemment de des autres et c'est un truc à réfléchir. C'est d'apprendre à avoir de la grâce pour les gens avec qui on est, encore plus de grâce justement pour les gens avec qui on vit le plus intimement, que ce soit ses enfants, ses partenaires, etc. Plutôt que de tout donner à l'extérieur et de... Donc voilà, mais bon, tangente. Ce qui a changé, c'est vraiment c'est ça. Dès que j'ai commencé à dire Eric Nouranga, donc Eric est intelligent, Eric est bon à l'école. Parce que du coup, c'était donc, comme je dis, ah ben voilà, regardez, nos enfants noirs sont arrivés, sont plus grands, etc. Et par respectabilité, voilà, toujours deux fois plus et tout, etc. Et donc, voilà, je me suis aussi enfermé dans ce, vu qu'il me fallait une personne, en fait, on a tous nos personnalités. Et moi, je crois que tous les aspects de ma personnalité, justement, d'être un enfant qui adore chanter et danser dans la mode et tout, etc. Il y a plein de stigmas qui vont venir avec ça. Et donc, je l'avais moi, tant que j'ai, du coup, aussi la personnalité de l'école qui est bon à l'école. Et qui, en plus, est très sociable et très drôle. Parce que je faisais rire les gens aussi. Voilà. Ça, c'est une personnalité qui était plus safe. Et on a du coup aussi commencé à me projeter beaucoup de trucs. J'entendais beaucoup de gens, même des gens avec qui j'étais allé faire tout dans ma famille, c'est ah, Eric, c'est la personne qui nous rendra riche, Eric, il conduira plein de voitures. Ça, Eric, j'ai même pas me permis un montage. Eric, il conduira plein de voitures, il va créer une entreprise, il va employer des gens, Eric, ta, tout ça. Et donc, moi, j'étais là, ok, à l'aise, bah, écoute, qu'est-ce qui peut aider à faire ça? Moi, là-bas, j'ai voulu faire du droit, parce que j'étais là, parce que j'ai fait quelques cours, et j'étais là, de sous ces principes du droit, moi, j'en ai rien à cliquer. Puis j'ai voulu faire du journalisme parce que c'était cool justement, je voyais ah mais je pourrais être journaliste musical dans la mode et tout, je pourrais avoir cette, je voyais beaucoup de séries, on glamourisait ça, on romantisait ça, mais j'étais là non en fait non, je pourrais pas ça plus. Et j'ai fini mais ok, j'aime les langues, je suis très bon en maths et j'ai une bonne logique parce que d'ailleurs je fais les tests de logique de plein de gens là ça, j'adore faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, ingénieur de gestion. Pourquoi? J'avais l'impression que ça restait un peu assez comme l'école générale, en fait. J'avais beaucoup de cours de langue, des cours de maths, des cours de quelques sciences et tout, des cours de sociaux, communication et tout. Genre, j'avais de tout, on avait de tout. Donc, ça restait un peu comme l'école générale. Donc, j'avais pas non plus besoin de directement faire ce que je faisais. Et puis après, on me disait que c'est aussi les langues que, les cours que les chefs d'entreprise, donc, dès ceux à quoi on prédestinait, là, dans mon entourage, finissent par faire. Et, donc, je suis parti là-dedans. Et j'étais là, ouais, donc je veux, parce que j'ai vu un jeu, j'avoue, j'ai un titre d'ingénieur, et puis j'ai vu, ouh, il y a cette nouveau truc, les gens du futur doivent être bons en gestion, mais aussi en IT, et donc il y avait cette option qui existait à l'université de Namur, ça s'appelait Business Information Systems ou Information Management, donc voilà, avec de l'IT en même temps que du business, donc être, on appelle ça de purple people, parce que je crois que business ou IT c'est bleu, et l'autre c'est rouge, et donc on était ces gens au milieu de tout, donc mais j'étais du coup les premières générations qui faisaient ça, donc qui ont fait ce master et cette truc, je crois que ça c'est pas 2-3 ans, c'était Et il n'y avait pas encore les premiers qui m'ont sorti quand je suis arrivé. Donc, je disais, waouh, que je fais partie de ce groupe, on va être petit et tout ça. Donc, je suis parti à fond et j'étais bon en programmation, j'étais bon en maths, j'étais bon en langue. Donc, voilà, vraiment, j'ai toujours effacé vraiment pas eu de second cycle jusqu'au moment où, voilà, un cours de physique m'a foutu une bonne claque, là. Je me suis rendu compte, ah, j'ai enfin trouvé un truc, je suis pas bon. J'ai beau être en maths, mais je suis pas bon. J'ai beau être en maths et en logique, la compréhension, mais je suis pas bon.
Non, mais la physique, c'est un chemin de croix. Moi, je n'ai jamais. Moi, je suis très honnête. Hein. Ouais. À l'université, là, ouais. Le cours où j'ai eu la pire note, c'était physique. 1 sur 20 à l'examen.
1 sur 20
à l'examen.
C'est bien.
Pourtant, je passais toutes les formules. Ouais. Mais la traduction d'une situation réelle en formule de physique, en forme de physique, c'est galéré. Même en secondaire, mon prof, il m'avait fait passer. Hein.
Ah ouais,
j'avais tout réussi, j'avais mis l'examen de passage en physique. C'était c'est l'examen de passage. À cause de ça, j'ai raté la proclamation et tout ça de la fin de la réto.
Ouais.
J'ai étudié pendant l'été, j'ai terminé. Oh. J'ai dit, mais la physique, moi je vais faire un métier pour de la physique.
Pareil,
j'arrive à l'examen.
Ah, le petit monsieur, tout ce qui est carré de budget, etc.
J'arrive en septembre, je passe l'examen. Oh, je vois après, oui, vous avez réussi. Quand je vois mon bulletin, je vois, mais j'ai pas la moyenne.
Ouais.
Et puis je vois délibérer, je dis, ah, il a fait une preuve de grâce. Il a dit, le petit, là, il galère, ça fait 300 qu'il galère en physique, il arrive à passer avec 50.
Ouais.
Là, il va à l'université, vas-y, je laisse passer. Non, la physique, vraiment.
Non, c'est.
Autant en maths, je tapais ça. Hein.
C'est
maths,
ça.
Je tapais ça.
Moi, j'étais en maths 8.
Même la philo. L'université, moi, j'ai tapé 14 de 20 en philo.
Pareil.
Première année à l'université, hein, 14 de 20 en philo.
Ouais.
J'ai donné cours aux autres.
Ah, moi, j'étais premier de mon option.
Ah,
j'étais même premier de mon option à l'université, etc. Mais juste comme ça, j'étais première, deuxième, c'est passé crème. La troisième, tout ça, c'est crème, puisque, le cours de physique.
Non, la physique, vraiment.
Et,
tous ceux qui nous écoutent, les jeunes, si vous galérez avec la physique, vous en faites pas. Vous n'êtes pas les seuls.
Ouais.
Et voyons, on peut survivre.
C'est
on
ça.
Peut survivre. Et voilà, les amis, nous arrivons à la fin de la première partie de l'entretien. Nous avons encore discuté pendant un long moment. Et c'est pour cela qu'on va se couper ici. Et la deuxième partie de la discussion avec Eric, vous l'aurez donc d'ici 2 semaines au prochain épisode. En attendant, mettez des likes, mettez des étoiles. N'hésitez pas à faire un commentaire. Donc voilà, dites-moi ce que vous aimez. Dites-moi ce que vous voudriez amener, ce que vous voudriez changer, des gens que vous voudriez que je puisse inviter dans ce podcast. Et puis, on fera cela. En tout cas, prenez soin de vous, la famille. On se voit très, très bientôt. Et comme disait le frère Youssoufa, envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qu'ils enverront à 3 personnes de leur entourage, et ainsi de suite. À la prochaine.